Vous avez remarqué qu'il n'a pas dit vous étiez malade. Il a dit vous étiez mort. Mais bon, toutes les religions pensent qu'on est malade. Pas mort, mais malade. C'est pour cela qu'on a toutes sortes de programmes, de conseils à donner à ceux qui sont malades. Les philosophes disent, vous savez, vous avez une petite étincelle en vous. Une étincelle de bonté, une étincelle divine. Vous n'avez qu'à souffler dessous. Et puis ça marche. Et puis les autres ont des conseils. Il faut porter un crucifix. Il faut avoir une petite carte de Saint-Joseph qui vous garde. Aussi un autre, ça m'est égal, quel saint c'est. Et donc, l'idée, c'est que si on se grouille, si on fait quelque chose, si on fait tout ce qu'on peut, si on est à nos yeux pas mal, aussi bien que le voisin, même pas mieux, alors si les hommes vont au ciel, moi aussi. Voilà l'idée, n'est-ce pas? C'est que d'une manière ou d'une autre, j'arriverai. Je suis bien malade, c'est vrai, j'ai péché, j'ai fait ceci, cela, mais avec mes bonnes œuvres, avec ma religion, avec ma philosophie, je m'en sortirai. Et Dieu dit non. Ce n'est pas que vous êtes malade, vous étiez mort. Il met ça dans le passé parce que il écrivait à l'église d'Éphèse, et les gens de l'Éphèse étaient vivants. Et il a dit, vous étiez mort. C'était dans le passé, vous étiez mort. Pas mort physiquement, ça va de soi, mais alors mort de quoi? C'est-à-dire, dans la Bible, il y a trois morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. Alors, quand Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangerez cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, ils ne sont pas morts ce jour-là, physiquement, mais ils sont morts spirituellement et totalement. Qu'est-ce que ça veut dire, mort spirituellement? Avant d'être sauvé, on est coupé de Dieu. Il y a Dieu, il y a nous. Mais il n'y a pas de rapprochement. Oui, Dieu vous aime quand même. Oui, Dieu nous aime quand on n'est même pas sauvé. La pluie tombe sur le juste comme sur les injustes. Dieu conduit toute l'humanité, même si l'humanité le refuse, il le conduit quand même. Mais ils sont coupés de Dieu avec une mort spirituelle. Et la mort spirituelle veut dire ceci, que si on meurt dans cet état-là, on est mort éternellement. Il n'y a pas une autre solution. C'est pour cela que c'est important de connaître Christ. Et vous qui connaissez Christ ce matin, vous étiez mort, mais maintenant vous êtes vivant. Quelque chose est arrivé. C'est-à-dire que vous avez entendu un message un peu comme celui-ci de ce matin, que Dieu vous aime, mais que vous n'êtes pas en contact avec lui. Vous êtes séparé de lui. Vous n'avez jamais eu cette expérience de passer, comme la Bible dit, de la mort à la vie. Mais un jour, vous avez entendu Christ frapper à votre porte, disant « J'aimerais entrer ». Et vous avez entendu sa voix qui vous parlait. Vous saviez que si vous acceptiez Christ dans votre cœur, vous serez sauvé pour l'éternité. Alors ce jour-là, un jour que vous n'allez jamais oublier dans toute votre vie, vous avez dit « Seigneur, entre ». Et Christ est entré. C'était votre décision. Vous avez décidé vous-même d'ouvrir votre cœur à lui. Il y avait un homme qui vivait ici en France qui s'appelait Jean Calvin. Jean Calvin a dit non, ce n'est pas vrai. L'homme qui est mort ne peut pas prendre une décision. Mais il a oublié quelque chose. C'est qu'on prend les décisions tous les jours. Même ceux qui ne sont pas sauvés, ils prennent des décisions. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qui dois-je épouser? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est-à-dire, on prend des décisions tout le temps. Et la décision de Christ n'est pas différente. Quand Christ frappe à la porte, on dit « Seigneur, entre » ou on dit « Seigneur, n'entre pas ». C'est une décision que nous pouvons prendre. Il est vrai que dans le domaine spirituel, quand on arrive au point où on veut être sauvé, le Saint-Esprit vient et nous donne la foi pour l'être. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a la foi. Et cette foi surgit de qui? Du Saint-Esprit. Mais la décision était la vôtre. Vous avez décidé d'accepter le Seigneur. J'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit en ce qui concerne la doctrine de la prédestination. Vous avez tant entendu. Parce que Calvin est l'auteur de cette doctrine. Il dit que Dieu est souverain. Et parce qu'il est souverain, il choisit lui-même qui va être sauvé. Vous ne faites pas, vous êtes mort. Donc vous ne pouvez pas choisir. Donc Dieu va choisir. Et quelqu'un a dit, voilà, c'est comme un petit bateau rempli de gens qui sont naufragés, pour ainsi dire. Ils ont presque plus d'eau. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont là. Et un grand navire passe à côté. Et le capitaine regarde. Il a dit, voilà, je vois que vous êtes dans des circonstances terribles. Vous allez mourir. Mais voilà, moi j'ai ici de la place. Bien sûr, dans le navire, il avait place pour tout le monde. Mais il a dit, bon, cette dame là-bas, je vais la prendre. Et cet homme-là, je vais le prendre. Et ce garçon. Vous trois, alors vous montez et vous laissez le reste. Ça, c'est la prédestination. Les autres, ils peuvent tous couler. Avec cela, vous n'avez pas d'amour. Vous avez un Dieu souverain, un Dieu qui prend des décisions pour vous, mais ce n'est pas un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu veut sauver tout le monde. Il ne va pas dire, voilà, toi et toi et toi, pour laisser les autres couler. Ce n'est pas un Dieu d'amour, cela. Ce qui est en réalité, c'est que le grand navire approche et dit, qui veut venir? Tout le monde est invité, montez. Et puis, il y a trois ou quatre qui disent, amen. Et ils grimpent dans le navire. Et puis les autres, et les autres, vous ne voulez pas? Oh, je crois qu'on peut se défendre. Hein. On est arrivé jusqu'ici. Hein. Oui, on a quelques petites provisions et puis on a l'habitude, vous savez. Mais vous allez mourir, monter. Oh, vous savez, jusqu'ici, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le monde. Dieu dit, viens. Viens ici sur le grand navire. Oh, je crois que je peux m'en sortir. Vous savez, j'ai ma religion. L'autre jour, ma voisine, on se trouvait là dans le couloir et j'ai dit, alors, quand est-ce que vous allez venir me voir? Oh, elle a dit, vous savez, moi, je ne change pas de religion, moi. Vous savez, je crois en Dieu. Je dis, oui, mais ça ne suffit pas. Ah, mais je fais beaucoup de bonnes œuvres. J'ai dit, ça ne suffit pas. Oh, ça se voit que vous êtes un pasteur, hein, ça, alors. Et là, c'est comme ça. C'est-à-dire que, voilà, dans le bateau, on s'en sortira. Tout va bien. On ira jusqu'au bout, ne vous en faites pas. Et puis, ils vont couler. Ils sont perdus pour l'éternité. Ceux qui ne montent pas dans le navire sont perdus pour l'éternité. Ils n'arriveront jamais au sol. Mais il y a une autre chose là-dedans, avec la prédestination, avec la souveraineté de Dieu qui... C'est une fausse idée de la souveraineté de Dieu. Je vous ai parlé de la souveraineté de Dieu l'autre jour. Mais, vous savez, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec une volonté. Nous ne sommes pas des robots, mais avec la prédestination, avec la façon de voir Calvin, on est des véritables robots. Imaginez. Imaginez qu'un couple qui vient de se marier. Alors le lendemain, il voit son épouse, il dit, « Aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. » Oh, c'est gentil. Et moi aussi. Hein. Le lendemain, il arrive, « Aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. » Ah oui. Et moi aussi. Hein, c'est... Troisième jour, « Aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. » À la fin de la deuxième semaine, il commence. « Aujourd'hui, arrête, tu m'agaces avec cela. Si tu n'as pas autre chose à me dire, alors, oh là là, alors, tu es comme un disque qui est rayé. » Mais un jour, admettons qu'un jour, il pourrait dire ce qu'il veut. Alors il dit, « Bonjour, tu sais que je te déteste. » Quoi ? Alors elle, « Mais bien sûr, c'est pas ça qu'elle veut entendre, mais c'était mieux qu'aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. » Au moins, c'est lui qui parle. Au moins, on sait que ça vient du cœur. Mais pourquoi, chérie, pourquoi tu... Alors maintenant, elle a envie de gagner son amour, mais qu'est-ce que j'ai fait que tu me détestes ? Alors elle travaillerait jour après jour pour gagner son amour. Et un beau jour, il dit, tu sais, je t'aime. Alors là, ça vaut 100 000, aujourd'hui je veux te dire que je t'aime. Et si nous ne voulons pas cela, Dieu non plus. Dieu ne veut pas des êtres qui ne peuvent pas dire autre chose, Seigneur je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ça ne veut rien dire. Il faut que nous ayons la capacité de dire, je te déteste, Seigneur. Comme un homme que j'ai trouvé un jour, j'ai parlé de Dieu, il a dit, vous savez, je le hais. Alors quelqu'un qui dit, je te hais, et quelqu'un qui peut dire aussi un jour, je t'aime. Et voilà ce qui ne va pas avec cette idée d'une souveraineté sans amour, sans rien. Il a dit, oui, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Oh, je suis content de cette autrefois. Vous savez, chacun de vous qui connaît le Seigneur, vous avez laissé tous ces péchés derrière vous. Ça, c'est autrefois, vous étiez comme ça. Autrefois, vous faisiez des choses dont vous avez honte maintenant. Mais maintenant, non, c'est autrefois. Malheureusement, quelquefois, ce n'est pas autrefois. Quelquefois, on garde certaines choses. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu veut nous transformer totalement pour qu'on lui ressemble, pour qu'on soit saint, qu'on soit consacré. Il a dit, les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Il y avait un pasteur qui disait, nous, les églises, nous ne marchons pas avec le monde. Nous marchons deux pas derrière. Et c'est ça le problème. C'est que le monde est là avec leur péché et nous sommes deux pas derrière, toujours suivants. C'est-à-dire, c'est pas ça. On doit être différent. On ne doit pas suivre le monde dans tout ce qui... Vous savez que les chrétiens font aujourd'hui ce que les chrétiens, il y a 50 ans, n'auraient jamais fait. On suit le monde juste derrière. Deux pas derrière. Les jeunes ont peur de se distinguer et être différents que les autres. Mais vous savez, c'est cette différence qui donne envie, qui pique la curiosité. Et si on est exactement comme les autres, on se dit, mais il est comme nous, c'est pas la peine, hein, il est exactement comme nous, il peut dire ce qu'il veut, mais sa vie, et ses paroles n'ont aucun sens. D'ailleurs, souvent, ils n'ouvrent même pas la bouche parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas faire connaître sa foi. Mais une jeune fille, une fois, a pris position dans son école. Et elle a dit, je suis sauvée. Et elle n'est pas allée. Elle n'a pas fait ce que les autres filles ont fait. Bon, bien sûr. Les autres filles se sont un peu éloignées d'elle. Elles ne voulaient pas être trop près d'elle parce qu'elle était différente. Mais l'une d'entre elles est tombée très malade et elle a dit, elle est allée voir, on est allé voir et elle a dit à cette jeune fille qui était sauvée, priez pour moi, je sais que tu es le seul à qui je peux aller. Vous savez, les gens savent qu'ils sont sauvés. Ils savent, même s'ils si vous respectent, ils voient, même s'ils disent des choses contre vous, ils savent que vous avez quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Et c'est cette différence qui, finalement, va les attirer. Si on les ressemble, non. Les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, selon le train de ce monde? Vous savez que c'est le monde qui donne la mode. C'est le monde qui nous donne les idées, comment faire. Et puis on le suit, deux pas derrière, petit à petit. Vous savez, autrefois, on se mariait. Un jeune homme, il aimait une jeune fille, il lui proposait le mariage. Aujourd'hui, un jeune homme, il voit une jeune fille, on va coucher ensemble, hein, on va prendre une chambre. Vous savez, ça, quand les jeunes viennent, souvent, presque toujours, ils vivent avec quelqu'un sans être mariés. C'est normal. Et puis, si vous dites quelqu'un, mais tout le monde le fait. Ah, mais tout le monde le fait. Le train de ce monde. C'est-à-dire, il laisse d'autres mœurs venir. Oui, la jeune fille, vous savez ce qu'elle a? Elle a avorté. Oh, mais ça, c'est rien, ça. Tout le monde le fait, ça. Oui, tout le monde le fait, mais c'est un meurtre quand même. Hein. Tout le monde, on n'est pas dans le monde. Il faut faire attention que le train de ce monde ne vous amène pas plus loin dans le péché. L'homosexualité. J'ai vu deux garçons splendides, mais deux jeunes hommes. Ils étaient assis sous un arbre hier. Mais chacun aurait pu proposer le mariage à une jeune fille. Je suis sûr qu'ils étaient deux homosexuels. C'est terrible. Hier, Schwarzenegger, gouverneur de la Californie, a dit « Je vais faire en sorte que les homosexuels puissent se marier immédiatement parce qu'ils souffrent trop. » Le train de ce monde. Mais c'est normal. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est ici dans la Bible. Dieu a dit ce qui est normal. Et le train de ce monde n'est pas normal. Mais nous sommes conduits par eux. Et si on lève la voix, mais d'où venez-vous, hein? Vous venez du Moyen-Âge ou quoi? Mais on est en 2010, hein? N'oublions pas, hein? Voilà, tout ça, c'est derrière nous, hein? Tout ça sont des histoires. Quand j'ai appris que Schwarzenegger a dit cette chose, je me demande si un de ces jours, un grand tremblement de terre ne frappe pas la Californie. Ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre? Dieu a fait pleuvoir sur eux le soufre. C'était consumé dans un seul jour. Combien de temps Dieu va-t-il supporter les péchés? Et les chrétiens suivent petit à petit le modèle du monde, tandis que nous devons être complètement détachés du monde. La beauté du Christ doit être en nous pour que tout le monde qui nous voit dise « Il est différent. Il est différent que les autres. » Voilà ce que c'est la vraie vie chrétienne. Selon le prince de ce monde. Qui c'est le prince de ce monde? Mais c'est le diable. Et beaucoup de gens pensent que le diable est en enfer. Et là, il dirige toutes les opérations en enfer. Pensez-vous, il n'est pas du tout en enfer, il est dans les airs. Il est dans les airs, juste au-dessus de nous, entre le trône et nous. Dieu l'a jeté du trône. Il n'a plus cet accès-là. Oh, il peut paraître, mais il est loin. Dieu le voit. Mais il, avec les démons qui sont avec eux, donne le ton. C'est lui qui inspire les horreurs qu'on voit aujourd'hui, les crimes contre l'humanité, les gens qui sont torturés. Vous savez, maintenant, ça commence à descendre. Cet homme-là qui a pris ses trois petits-enfants, oh, j'ai vu une photo de lui avec ses enfants. Il les a égorgés tous les trois. Ça, c'est le train de... Ça, c'est le prince de ce monde qui descend de plus en plus dans le monde, dans les êtres, qui inspire les êtres à des choses horribles. Hier, en Amérique, un homme a appelé ses deux jeunes filles. J'ai vu leurs photos. Il a appelé ses deux jeunes filles. Il a dit, je vais prendre des vidéos. Il a placé son appareil de vidéo. Et puis, avec le vidéo là, il les a tués pour le mettre sur l'Internet. Le prince de ce monde, vous étiez mort. Vous étiez comme eux. Ça, c'est le message. Suivant les convoitises de la chair, suivant les convoitises de la chair, le passage dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Avant d'être sauvé, vous avez fait ce que vous avez voulu. Vous avez dit, voilà, moi, cet été, je vais aller dans tel endroit pour mes vacances. Mais maintenant, vous ne le faites plus, bien sûr. Vous demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec mes vacances? Et si je dois aller quelque part, où je dois aller? Vous n'êtes pas comme ceux qui prennent des décisions sans demander à Dieu. Vous demandez toujours à Dieu avant d'agir, parce que nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne suivons pas les convoitises de la chair, mais nous faisons ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Ce n'est pas merveilleux. Ce que vous étiez autrefois, vous dites, oui, mais je n'ai pas beaucoup changé depuis. Beaucoup de ces choses me ressemblent encore. Alors, ça ne doit pas être le cas. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Elle sera bientôt terminée. Et selon la façon dont nous l'avons vécue, nous serons récompensés pour l'éternité. Nous aurons une place plus élevée. Nous aurons une place à table plus près du Seigneur. Dieu nous réserve des choses merveilleuses, mais il compte qu'on ait une vie changée. Il dit après que nous étions comme les autres. Deux fois dans le passage, nous étions comme les autres. On oublie des fois qu'on était comme les autres. Vous savez qu'en nous, nous avons le potentiel de faire tous les péchés du monde. Nous avons le potentiel en nous. Heureusement, nous qui avons accepté le Seigneur, on a le Saint-Esprit qui nous aide à ne pas tomber dans tous ces péchés. Mais nous avons le potentiel. C'est toujours là, comme un serpent prêt à mordre. Mais comme les autres, vous savez, je pense toujours à cette femme qui va voir une autre sœur et qui dit, oh là là, je suis peinée, ça me fait beaucoup de mal. Oh là là, voilà ce que j'ai appris. Un frère, il a commis l'adultère, oh là là, oh là là. Priez avec moi pour lui. Hein. Puis elle va aussitôt finir avec elle, elle va avoir un autre. Oh, faut prier. Vous savez, l'un a commis l'adultère et l'autre était sa joie de la rapporter. On était comme les autres. L'un a une tendance de voler, un autre a une tendance d'amertume dans le cœur, un autre a la haine dans le cœur, d'autres a le mensonge. Nous étions comme les autres. Ne croyez jamais que vous êtes différent des autres. Rappelez-vous de ces pharisiens qui, en voyant le publicain, dit « Merci Seigneur que je n'étais pas comme cela. » Eh bien, je me rappelle de cet homme, ces deux pasteurs qui se promenaient, c'était le soir, et ils ont traversé la rue, et là, couché dans la rue, était un homme ivre. Et l'un se tournait vers l'autre, il a dit, tu vois cet homme-là? Ça, c'est moi, à part la grâce de Dieu. Nous sommes capables de tout, comme les autres. Et puis viennent ces mots magiques. Mais Dieu. Vous avez remarqué ça? Mais Dieu. Quand tout semble fini, que notre vie est vraiment perdue, il y a mais Dieu. Je crois que ces deux mots sont les plus précieux de la Bible. Mais Dieu. Vous savez, c'est comme si on laissait tomber un verre et ça écrase avec des morceaux. On dit voilà, c'est fini. Et puis lui, il ramasse des pièces. Il les colle ensemble. Et quand le verre est terminé, c'est plus joli qu'avant de tomber. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu. Theo Badwell. Quelques-uns parmi vous le connaissez, l'ont vu. Il était le plus grand voleur de France. Aucune porte ne pouvait le résister. Il pouvait entrer n'importe où, voler ce qu'il voulait et partir. Finalement, on ne savait pas quoi faire avec lui. Si on le mettait en prison ici en France, il passerait toutes les portes. Hein? Donc on l'a envoyé au bagne en Guinée. Et là, même s'il était sorti de prison, il y a la forêt autour. Et il était là. Et là, dans cette prison, d'une manière ou d'une autre, il avait une Bible. Il a commencé à lire. Il avait la haine. J'ai vu son visage. Oh, son visage était la haine. On le voyait dans son visage. Et il a commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, il a accepté le Seigneur. Et puis, tout cela est venu aux oreilles du président de Gaulle, qui l'a pardonné. Il a fait venir ici en France. Quand il est arrivé en France, il a dit, voilà, j'ai entendu que votre vie a tellement changé. Je vais vous donner un casier vierge, judiciaire vierge. Alors, comme si vous n'avez jamais fait un seul péché de votre vie. Je trouve ça une image de Christ. Nous avons fait tant de mal, nous avons fait tant de péchés, et puis tout d'un coup, il efface tout. Un casier judiciaire vierge. Alors, et quand je l'ai vu, quand je l'ai rencontré, il était extraordinaire. Il n'était pas très grand. Il avait une joie dans son cœur. Il était rempli du Saint-Esprit. D'être avec lui, c'était un plaisir. Et il était tellement humble, tellement plein de joie, tellement consacré à Dieu qu'on aimait être à côté de lui, qu'un peu vient sur nous. Et on aurait dit, si on ne connaissait pas son passé, oh, c'est un garçon certainement qui était élevé à côté de sa mère, qui était chrétienne, qui lui a lire la Bible tous les jours, et puis voilà, c'est normal, hein, c'est pour ça qu'il est comme ça. On n'aurait jamais cru qu'il était le plus grand voleur de France. Dieu. Il était impossible. Perdu à tout point de vue, mais Dieu. Mais Dieu est entré. Il a tout changé. Un jour, j'étais avec lui, et nous étions trois ou quatre, et je ne sais pas, ma femme n'était pas là, et j'avais laissé ma clé dans la maison. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et alors là, on était devant notre maison, la porte fermée à clé. Alors, on était là, et puis tout d'un coup, Théo a dit, « Vous me permettez ?» Alors, il est arrivé devant la porte. 30 secondes, on était dedans. Alors, je regardais, et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. je crois que vous avez oublié qui j'étais. Qui j'étais? Oh, c'est bon ça, hein? Mais je ne suis pas ça. Il ne l'utilisait pas. Il avait toujours le don, hein? Il pouvait entrer dans n'importe quelle maison, hein? Mais il ne le faisait plus. Voilà comment Dieu est. Je veux terminer avec cette histoire qui vient de Chicago. Il y a une mission là qui existe toujours, qui était là quand j'étais à l'Institut biblique il y a déjà plus de 70 ans. Alors là, c'est situé dans les bas-fonds de Chicago, là où il y a les clochards, tout le monde, le rabbin de l'humanité. Un jour, c'était une mission qui voyait des âmes sauvées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, un soir, un homme, un clochard, passait par là, un maillot, il passait devant la porte était ouverte, il a vu qu'il y avait quelqu'un, les gens chantaient, il est entré, il s'est assis, puis il y avait le message. Et Jésus-Christ était présenté comme celui qui pourrait changer la vie totalement, donner une raison de vivre. Il a entendu le message du salut. À la fin, quand l'appel était donné, il s'est levé, il s'est avancé, il est tombé à genoux, il a accepté Christ dans son cœur. Le pasteur lui a dit quelques mots, lui a cité des versets bibliques sur lesquels il pouvait s'appuyer, sa foi, et puis il est parti. Le lendemain, il est venu de nouveau, il est venu devant, il a dit: « Pasteur, je ne vous ai pas dit qui je suis. Je suis un médecin, je suis un docteur. Mais à cause de l'alcool, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, mes enfants, mon travail. Et j'étais là, comme vous me voyez maintenant, complètement perdu. » Il a dit: « Depuis hier, je n'ai pas touché une goutte. Et je n'ai plus envie de toucher une goutte. » Dieu m'a changé hier. Dieu m'a changé. Le pasteur qui était là, il était tellement touché qu'il a dit: bon, voilà, vous allez venir tous les jours. Et il lui a parlé tous les jours. Et finalement, ils ont acheté un costume pour lui, des chaussures. Il a pu prendre une douche. Il était rasé de nouveau. Et là, il était comme il était autrefois. Le docteur. Le pasteur a dit: je crois que maintenant il est temps de contacter votre femme. Alors on a contacté sa femme. Oh, elle a dit: je ne crois pas. Non, 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 il ne changerait jamais. Oui, mais non, mais c'est Christ qui l'a changé. Ah, mais non, c'est pas possible. Et les enfants et tout ça, je ne peux pas l'amener dans la maison. Non, mais il faut le voir. Finalement, on a persuadé sa femme de venir. Quand elle a vu, elle a dit: mais c'est pas possible. Elle a accepté. Il a retrouvé sa place dans le foyer, avec ses enfants, avec sa femme. Il pouvait de nouveau exercer comme docteur. Mais Dieu, quand on arrive au bout de soi-même, il y a Dieu qui est riche en miséricorde et dans son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le message de la croix. Peut-être vous pensez ce matin que vous avez gâché votre vie, vous perdez votre vie, mais ce matin, vous voulez que Dieu vous change, vous donne une raison de vivre. Il peut le faire, mais Dieu, prions Dieu.